France Inter.
Alors, venons-en tout de suite à la question que se posent avec moi tous les Français. Comment comptez-vous lutter contre la vie chère ?
CO2, mon amour.
Contre le beefsteak, à 80 francs le kilo.
Mais oui, mais alors le kilo de quoi ?
Le beefsteak.
Mais dans le filet, alors ?
Oui, peut-être, je ne sais pas.
Mais non, mais mon cher ami, alors là, nous sommes dans un autre univers. Vous vous rendez compte à combien ça vous revient à l'heure actuelle, un malheureux pot-au-feu, quand vous avez déjà 1,5 kg de plat de côte ?
Denis Chessou.
Vous ne devez pas manger souvent de pot-au-feu.
Ah, ça, je ne vous permets pas de dire ça. Bon. Si, monsieur Perrin, je mange du pot-au-feu, comme tous les Français.
C'est ça, et vous ne mettez pas de saucisse dans votre pot-au-feu.
Sur France Inter.
Alors, qu'est-ce que vous mettez ?
Mais je mets comme tout le monde, je mets du leurre, enfin, des légumes, du jarret.
Le jarret, combien ça coûte ?
Ah bah oui, un peu de délire là, comme ça, en sortant de table, pourquoi pas. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec à la technique aujourd'hui Julien Dumont, notre collaboratrice c'est Camille Blanès, et c'est Xavier Pestugia, oui, qui réalise l'émission. Alors, faire l'éloge de la lenteur dans une émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, oui, allons-y pour la slow télévision. La migration des élans est un énorme succès en Suède. Chez nous, l'élan étant assez rare, sauf l'élan pour bousiller la planète. Donc, après les communes qui installent des caméras près des nids de cigognes et autres balbuzards, on s'est rabattu sur du local. Alors non, pas le chat, car ce bouffeur de piaf si mignon a envahi toutes les vidéos. On a convoqué le cerf et son harem de biches. Un vrai club de rencontres sans application, sans frais, dans une clairière. Ça s'appelle le Brame. 7 caméras et roule mon cerf. Pas de scénariste, peu de dialogue, pas de cachet, pas de comédien qui mendie pour remplir leurs 507 heures, que des intermittents du coït à cornes, un mois à bloc et puis repos. Alors certes, un cerf pour 15 biches, ça fait un peu l'éloge du cerfiarcat, ce qui est très discutable en cette période de remontée de cet odieux masculinisme. Bon, mais ce sont quand même des animaux. Et oui, ils sont programmés ainsi et les biches sont consentantes. Alors pour autant, les enfants, c'est pas un exemple pour les humains. Vous avez qu'à écouter Bestioles, comme ça vous serez tranquille. On appréciera, avant la reproduction, la partie de MMA entre les vieux et les jeunes cerfs. Ah bah oui, parce qu'il y en a qui se font éliminer du loft, hein, là aussi. Depuis une semaine, la plateforme gratos de France Télévisions diffuse ces images de vie sauvage en forêt de Rambouillet. C'est 24-24 en direct, histoire de changer de CNews qui dégueule sur France Inter et le service public. Alors pourquoi s'embêter à bricoler de la télé-réalité dans des jacuzzis, alors que biche et cerf feront bien mieux l'affaire, bête à poil également, mais avec un avantage, il ne parle pas. Et puis à la télé, certes on est un peu voyeur, mais on n'embête pas les animaux. Est-ce que vous avez vu en France comment ça se passe ? Maintenant c'est le Brameland sur les places de Brame, un show animalier dans les forêts profondes, avec des troupeaux de photographes, de curieux certes, mais bien intentionnés. Alors ok, mais ils n'ont pas forcément les codes. Le nombre, la lumière des portables, ça vous perturbe un coït. Est-ce que vous seriez heureux, vous, avec 50 personnes autour de vous, qui vous filment dans votre intimité en état de reproduction ? Alors, en cette période où il y a moins d'argent, où le service public se fait tirer dessus, on peut remplir 500 heures de télé en bonne conscience écologique, pédagogique, et c'est tout bénef. C'est moins stressant qu'une rave party sauvageonne, c'est beaucoup moins cher qu'un concert du Digistar à Bercy. Nul besoin d'ailleurs après l'épreuve d'une reconstruction de l'appareil auditif, le Brame de Cervus et Laffus, bien que puissant, ne dépasse jamais le taux de décibels nocturnes proposé par Mère Nature. Ralentir, prendre le temps, sans musique, sans commentaire, après tout, si se reconnecter à la nature doit passer d'abord à travers un écran, pourquoi pas ? Tout ce qui n'est pas nous et qui vient de la nature est souvent un émerveillement. Donc, vive les amours rugissantes du cerf au grand bois et ce drôle de Brame. Alors nous, aujourd'hui, dans cet étang du Vacarès, on sera plutôt flamant rose et goéland, donc je vous emmène découvrir cette star, cet étang, dans la bouche du Rhône. Drenched your C'était pas du Brahms, c'était la playlist, c'était Green Tea Peng, autrement dit du thé vert, choisi par Thierry Dupin. Il faisait doux dans la bouche et dans les bouches du Rhône.
Là, on est devant Vacaresque. Donc là, il est très très beau parce qu'il est, il est plat comme ça. Et puis, il est dans ses gris, là, avec ses ciels un peu de novembre. Donc on mesure quand même son immensité. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'on ne voit pas de traces d'urbanisme ou de traces d'aménagement humain quand on fait le tour. On voit que les liserés des bosquets du bois d'Ariège ou et de peupliers qui sont au nord. Ça aussi, c'est particulier cet espace, et qu'on est quand même au milieu d'un delta qui est resté relativement épargné par les grands aménagements. Vacaresse, alors c'est probablement le Vacarum Regio des Romains, qui voulait dire le pays des vaches. Donc ça veut dire que depuis très très longtemps, dans ce coin, il y a des vaches qui traînent. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le Vacaresse, ce n'est pas un étang, c'est d'abord un pays, hein, puisque c'est d'abord, ça représente un ensemble de ce territoire.
C'est un œil ovale au cœur de la Camargue, un œil qui pleure des larmes salées et douces, un œil qui regarde les oiseaux passer et se poser. Et cet œil, en fait, est le leur, car pour un oiseau, bah, évidemment, il est reposant, il est nourricier. Nous sommes donc au bord du Vacaresse, les oiseaux, eux, sont au milieu, et là, on ne peut pas les tuer. Le Vacaresse, l'étang donc où paissent les vaches en manade sur ses rives, était reconnu comme étant une zone humide d'importance mais absolument mondiale par la convention de Ramsar. Alors d'abord merci au Conservatoire du Littoral d'avoir fait l'acquisition de ces lieux, on va dire 13 000 hectares donc au total. À l'ouest, eh bien notre Vacaresse regarde le Petit Rhône, à l'est et au nord le Grand Rhône et au sud bien sûr la Méditerranée. Alors ce Vacaresse, c'est en fait c'est la grand-mare des Camarguais, des Arlésiennes, étang central avec ses 12 km de long, et contrôle les eaux du delta. Alors le Vacaresse sait très bien les vents, le régime des vents. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'il est à l'abri. Je veux dire par là qu'il est protégé sous le statut de réserve naturelle nationale de Camargue, qui a été créée en 1927 par la Société nationale de protection de la nature, qui fait un formidable boulot en France. Donc on va découvrir avec Gaël Emery, le directeur de cette réserve naturelle de Camargue, ce lieu, l'eau Vacaresse, hein, donc avec la Société nationale de protection de la nature. C'est donc la plus grande réserve de zones humides de France.
Bon, si je devais nager, ce qui ne va pas du tout être le cas, surtout avec le vélo.
Il n'y a pas beaucoup d'eau.
Non, alors ce que je vais vous dire, non mais c'est pour ça, c'est très peu de profondeur.
Très peu de profondeur, c'est 2 mètres maximum, et la plupart du temps on peut circuler avec une combinaison ou des cuissards, donc ce n'est pas un étang profond, donc tu peux y aller.
Comment il est alimenté ?
C'est un étang d'eau globalement saumâtre, donc des salinités qui sont entre l'eau salée et l'eau douce. Donc il est alimenté par des eaux qui arrivent du nord, qui sont soit des eaux de drainage agricole, soit des eaux qui viennent des précipitations, parfois directement du Rhône aussi, du fleuve, et puis par les eaux qui rentrent depuis la mer dans le delta, donc des eaux marines.
Alors, il a une extraordinaire capacité d'épuration.
Oui, bah c'est une lagune qui joue ce rôle, effectivement. Donc elle est résiliente. Bon, elle rentre quand même des difficultés. Hein, elle est pas, voilà, jusqu'à un certain point. Mais c'est vrai que malgré le fait qu'elle est. C'est une espèce de trou, en fait. Elle Vacaresse, un point bas qui récolte tout, finalement. Et comme il est peu connecté avec la mer, C'est ce qu'on appelle une lagune confinée. C'est-à-dire que le temps de résidence de l'eau, c'est une trentaine d'années. Donc une molécule d'eau qui rentre dans le Vaccarès, elle met 30 ans ou l'infini, c'est-à-dire qu'elle ne sort jamais de ce système. Ça veut dire que lorsqu'on envoie dans le Vaccarès quelque chose qui n'est pas de bonne qualité, on a à le gérer très 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 longtemps.
Et en fait, c'est une pièce maîtresse hydraulique ici.
Oui, on dit que le Vaccarès est à la fois un thermomètre, parce qu'il indique quelque chose du territoire, et c'est aussi un régulateur. Parce qu'en fait, en fonction de son niveau, il va avoir un impact sur tout le territoire. C'est-à-dire que s'il est haut, il va empêcher les terres de s'écouler, donc ça va avoir un impact sur les zones agricoles, sur les zones urbaines, périurbaines. Et s'il est bas, ça va être beaucoup plus facile de vidanger les terres, etc. Donc en fait, son niveau impacte tout un territoire.
Alors c'est le vent qui va brasser donc toute cette surface et brasser l'eau.
Oui, alors il y a 2 mètres chez les vents en Camargue, il y a le Mistral donc qui vient du nord-ouest, qui lui souffle bon, surtout l'hiver en grande rafale. Et il va faire ce qu'on appelle un basculement de plein d'eau. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il va oxygéner, mais il va aussi pousser toute l'eau vers le sud. Et c'est comme ça qu'on peut vidanger justement le Vaccarès vers la mer. On dit que la meilleure pompe en Camargue, c'est le vent, c'est le Mistral. Et en fait, après, l'autre vent dominant, c'est le levant, celui qui vient de la mer, de l'est, qui vient avec les précipitations. Et lui aussi, il peut faire basculer tout le Vaccarès vers le nord. Et surtout, il fait rentrer de l'eau salée, puisqu'il met en charge la mer, probablement aussi des eaux phréatiques, et il fait rentrer de l'eau salée dans le système.
Mais c'est formidable,
un
décollage de flamant rose.
Wow. Sur le ciel gris, ça fait.
On voit tout de suite le rose qui sort immédiatement. Et ici, donc, on imagine bien que ça a été à la fois donc, un terrain de jeu, mais pas que, hein, c'est un terrain de culture, donc pour les Camarguais, quoi, ça fait partie de leur vie, et c'est devenu quand même une réserve nationale.
Donc, oui, le Vaccarès est protégé depuis 1927, donc c'est une des plus vieilles réserves de France, et avec un régime de réserve intégrale, donc il est quand même à l'abri des pressions humaines quand même depuis presque un siècle, ce qui est quand même exceptionnel pour une zone humide littorale méditerranéenne, quand on voit ce qu'est devenu le littoral méditerranéen, quand vous partez de Barcelone à Gênes, finalement, c'est le seul un petit peu reliquat de nature relativement qui fonctionne relativement libre qui est resté. Quoi.
Parce que l'idée, c'était ça, c'est que les fonctions, on va dire, premières puissent fonctionner. Quoi.
Oui, c'est pour ça que la protection, elle a joué sur la superficie. Donc le Vaccarès est très grand, mais quand on rajoute, il y a les goélands qui nous accompagnent, ouais. Là, qui nous coupent la parole, quand on rajoute le reste de la réserve, on est à 13 000 hectares. Je dis toujours, Paris intramuros, c'est 8 000 hectares, donc vous voyez l'étendue du système. Et donc, c'est un système qui fonctionne par lui-même, même s'il est impacté par l'extérieur, il a cette capacité par la superficie d'être fonctionnellement encore vraiment actif et naturel.
Au bord du Vaccarès, sur quelques 13 000 hectares, la réserve zoologique et botanique de Camargue est son directeur.
Tout le monde devrait connaître l'importance de la réserve de Camargue. Tous les canards, tous les échassiers, avant de regagner l'Afrique, ils abordent et ils séjournent pendant quelque temps. Beaucoup d'entre eux s'y reproduisent. C'est pour cela que la Société nationale de protection de la nature tient à conserver cette réserve et à la protéger contre l'importance des touristes qui risquent d'envahir ces territoires qui doivent demeurer vierges.
Mais soyez pas désolé.
Non, on se met là-bas au
bord. Non, mais de toute façon, on va se dire 3 mots. Donc, des collègues, faites-nous les présentations, cher Gaël.
Bonjour. Enchanté, Laurent.
Et bonjour.
Bonjour. Enchanté.
Donc ça, c'est Zilke, qui est dans l'équipe depuis très longtemps, qui connaît bien la réserve, et qui là, donc, s'occupe avec notre prestataire de réparer les bateaux.
Qu'est-ce qui vous plaît énormément, on va dire, ici? Pourquoi vous vous sentez bien depuis des années sur ce Vaccarès?
Vaste espace naturel où la nature respire encore comme il peut. Voilà, moi j'adore en fait la nature depuis que je suis petite et je suis arrivée en Camargue et cette poste s'est présentée, voilà.
Est-ce que vous avez un animal, on va dire, un peu préféré, un peu fétiche?
La grue.
Oui.
Les grues. J'adore l'hiver quand ils arrivent, surtout le soir, sur les dortoirs. On a un dortoir sur la réserve, sur un FIS, et du coup ils viennent en nombre, des centaines parfois.
Elles passent l'hiver ici?
Les grues, oui. Ils sont arrivés il y a... Trois semaines déjà. Ils sont passés au-dessus la tête à Arles, là, une petite groupe de 50, donc j'étais tout content. Enfin, ils arrivent.
Ouais.
En fait, quand les guêpiers et les oiseaux que j'aime bien aussi, donc guêpiers, roliers, qui partent, ou les échasses, parce qu'ils crient tout le temps, donc on les entend partout, eh ben, j'attends les hivernants qui reviennent.
Bon, je suis un migrateur, je suis une migratrice. je repère de haut depuis très longtemps. Et puis mes parents, mes grands-parents m'ont enseigné, m'ont dit « Tiens, va sur le Vacarès ».
Oui, oui, c'est sûrement un lieu extrêmement attractif pour les oiseaux qui arrivent. Il y a l'étendue, il y a la diversité des milieux, il y a ce qu'on appelle la mosaïque de milieux en Camargue, c'est-à-dire tous ces milieux qui sont imbriqués, qui font qu'en fait un oiseau peut trouver à la fois l'endroit où il peut s'abriter, l'endroit où il peut s'alimenter. Et donc tout ça, c'est forcément attractif quand ils arrivent de très haut. D'ailleurs, moi, il m'est arrivé de voir des fois des canards en migration au mois de novembre. Donc ils étaient très très hauts là. Et puis d'un coup, en voyant le système Vacarès, ils plongeaient comme des fusées pour se poser. Des canards siffleurs, c'est extraordinaire. J'ai vu ça une fois. Et c'était des centaines qui arrivaient en quelques heures.
Alors on a quand même cette végétation particulière qui n'est pas très loin, ce qu'on appelle les sansouirs. Donc on va rappeler ce que c'est, parce qu'on voit bien une végétation donc, qui est assez rase, hein, donc de l'autre côté, et qui aime le sel.
Oui, c'est la seule qui peut survivre dans ces milieux. Donc là, devant nous, on a effectivement des salicornes, cette espèce de végétation un peu rouge, un peu lit de vin, là, elle tourne dans ces couleurs-là au mois de novembre. Et donc, c'est des espèces qui sont adaptées aux eaux salées en surface et aussi en profondeur. Et là, on a quelques roseaux qui essayent de survivre dans ce milieu très difficile, mais ils ont beaucoup de mal.
Alors, on est quand même sur une terre à la fois agricole et puis aussi une terre qui a fabriqué du sel. Les salins de Giraud donc, ne sont pas loin. Bon, ce petit monde-là, ce n'est pas véritablement entendu, on ne peut pas dire. Maintenant, quand même, voilà, il se retrouve, si j'ose dire. Et la riziculture, qu'est-ce qu'elle représente ici ?
Alors, c'est l'activité agricole principale. Alors, quand on dit riziculture, en fait, ce sont les céréales. Parce que souvent, on alterne le riz, le blé, donc c'est l'alternance. Mais c'est vrai que le riz, je dirais, on dirait une dimension culturelle qui fait qu'on en parle beaucoup. Et aussi parce que, finalement, c'est le seul territoire français où on a de la culture de riz, effectivement. Donc, c'est l'activité agricole principale. Et donc, la réserve, en fait, est située entre cette activité agricole au nord, donc dominée par l'eau douce, et l'activité salicole au sud. Et donc, on a été imaginer la réserve comme une espèce de zone neutre entre ces deux espaces. Finalement, cette pensée-là, au début du XXe siècle, n'était pas forcément absurde, et elle a tenu dans le temps. Quand quelque chose tient longtemps, c'est que ce n'était pas idiot.
Quelles sont les forces, Gaël, de ce Vacarès ? Forces et puis aussi donc, les faiblesses, les craintes que l'on peut avoir ?
C'est quand même un espace qui est relativement épargné par les aménagements. Donc quand vous arrivez ici, vous avez de suite ce choc d'une nature comme ça qui reste dans son jus. Donc on a l'impression qu'on se retrouve au début des âges et que ça n'a finalement pas beaucoup bougé. Et les gens sont souvent émus. Et nous, on est émus tous les matins. Quand on passe, qu'on voit le Vacarès, il n'a jamais la même couleur, il a la même façon de parler. Et même quand on le connaît, on arrive à voir s'il va bien ou pas bien, en fonction de la couleur, d'autres paramètres, presque intuitivement. Donc ça, c'est une force, d'être là, d'être comme ça, immense, au milieu de la Camargue. Et ça, c'est une force quasi éternelle, quoi. Force quasi éternelle, quoi. Tant que la Camargue existe, il sera fort. Après, ses faiblesses, c'est qu'il est dans un monde qui ne lui appartient pas, qui parfois est menaçant pour lui, donc il va récupérer toutes les pollutions, des pollutions atmosphériques, qui arrivent donc du golfe de Fos, hein, tous les dérivés pétroliers, HAP, etc. Il va récupérer les pollutions d'origine agricole, qui arrivent des bassins versants, donc tous les pesticides, les métaux lourds. Puis après, il a une menace qui peut être un peu plus, qu'on identifie moins bien, mais c'est la menace du sel, parce que le sel, ça peut être une source de diversité, de richesse, mais jusqu'à un certain seuil.
C'est ça.
Hein, au-delà d'un certain seuil, c'est un poison.
Parce que là, on est quoi, entre 4 grammes et 32 grammes, je crois, à peu près.
Alors aujourd'hui, le Vacarès, il est un peu en dessous de la sanité de l'eau de mer, mais il y a 2 ans, il était au-dessus de la sanité de l'eau de mer.
Dans votre magnifique cuisine, nouvellement équipée, faites donc cuire du riz de Camargue. Sa réputation a depuis longtemps dépassé nos frontières, mais il est en danger. Depuis quelques années, cette culture traditionnelle souffre du dérèglement climatique. L'eau des rizières est de plus en plus salée. Les agriculteurs cherchent des solutions, car le temps presse.
Un désert de sel à perte de vue. Au cœur de la Camargue, l'étang de Vacarès atteint des records en concentration de sel.
On atteint 70 grammes de sel par litre. C'est 3 fois la dose admissible en Camargue, et donc à ce seuil-là, il faut véritablement faire quelque chose.
La raison, la montée des eaux. L'eau de mer s'engouffre dans le parc et le sel ne repart pas. Cette année, presque aucune pluie n'est venue équilibrer les sols en eau douce.
Il n'y a plus un canard, plus un arbre.
Et donc là, c'est vrai qu'à partir de ces salinités, un peu au-delà, on va dire, on met en danger le système quand même. Donc, c'est une autre menace qu'il faut croiser avec les menaces du changement climatique, puisque probablement, on va être soumis à une pression de la mer de plus en plus forte sur le territoire, et donc de plus en plus forte du sel sur le Vacarès.
Ça veut donc dire que l'eau va rentrer, inévitablement.
Probablement que l'eau rentre déjà par d'autres chemins qu'on ne voit pas. Donc, ce qui se passe dans le souterrain, ça nous échappe. C'est ce qu'on appelle le biseau salé, par les fleuves ou par les... On fait ce qui se passe sous la surface, évidemment, mais après, elle va rentrer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez, par exemple, ouvrir les vannes qui sont entre la mer et le Vacarès, la plupart du temps, c'est la mer qui est au-dessus des étangs. Et donc, on fait rentrer l'eau de mer. Donc ça, de toute façon, c'est quelque chose avec lequel il va falloir composer. L'idée, c'est de voir comment on peut, tant qu'on est en capacité de contrôler le système, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse le contrôler longtemps, mais tant qu'on est en capacité de contrôler un petit peu le système, de compenser cette pression de l'eau de mer par l'augmentation des apports d'eau douce. Voilà, c'est un petit peu ce à quoi on réfléchit aujourd'hui.
Restez avec nous, car on n'a pas fini avec ce joyau naturel qu'est l'étang du Vacarès avec Gaël Emery. Et puis, on va rencontrer aussi un homme qui va nous parler du Rhône, de l'endiguement du Rhône, c'est Jean Jalbert. Et comme le vent, on en a parlé, je pense que là, il s'invite.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutraient, les gens trouvent, mais disent du vent furibond qui rebrousse les bois, retrousse les toits, détrousse les robes. Des gens foutres et des gens pauvres, le vent, je vous en réponds, sans souci, et c'est justice, comme de Colin tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolante, nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard,
eh bien sûr que Brassens aurait aimé, mais Catherine Ringer, bien sûr.
Douville ? Oh, ben Douville, ça c'est toute ma jeunesse. Polo Club, le casino d'hiver, l'hôtel du golf, le Normandie. Ces noms-là, c'est des bijoux pour moi.
CO2, mon amour.
Vous êtes natif de cette région ?
C'est tout comme mon oncle qui était marchand de primeur là-bas. Tu vois, juste derrière le casino.
Ah, oui.
C'était du primeur de luxe, attention, hein, c'était pas de la banane d'Aubervilliers. Ça tapait jamais en dessous de 13 balles le kilo chez lui, la Canada. Ça y est, il avait le blaire, ton plan.
Denis Chessou, sur France Inter.
Eh oui, un petit coup de Jean-Pierre Mariel, ça peut pas nous faire de mal non plus. Nous poursuivons donc notre virée, notre balade. Alors dans quelques minutes, vous entendrez Jean Jalbert, qui est le directeur de la Tour du Valat, qui est cet espace entre le Sambuc et l'étang du Vacarès, donc, et qui a pour but en fait la conservation et l'étude scientifique des zones humides, avec une activité de recherche quand même qui est très développée aussi. Et on rejoint là tout de suite Gaël Emery, hein, toujours au bord du Vacarès. Vacarès qui est quand même sur la commune des Saintes-Maries de la mer, dans cette réserve nationale naturelle de Camargue, avec la mer qui dialogue toujours avec les étangs et les oiseaux. Wow, une autre petite tache rose là.
Alors là, tu as des flamants roses, tu as quelques mouettes. Tout à l'heure, j'ai vu un canard souché. Oui, les canards souchés, les canards colverts. Il y a quelques bécassines qui se cachent un petit peu dans les roseaux. Donc ça, c'est une ancienne petite lagune qui communiquait avant avec le Vacarès et ça s'est fermé. Voilà. Et ça nous sert de port. Ce que tu vois là-bas, l'espèce de trépied, ça c'est un limnigraphe. Et ça nous permet de mesurer le niveau du Vacarès régulièrement. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un jeu de données sur les niveaux et les salinités du Vacarès, qui est très ancien. Ah. Le fait d'être réserve depuis 100 ans, ça permet aussi d'avoir un jeu de données qui est exceptionnel à l'échelle française, d'avoir un tel recul sur un espace naturel. Et ça nous permet aussi d'être humble. C'est-à-dire quand on a un recul, des fois on relativise un peu certains phénomènes. Quoi.
Et alors, je suis avec un homme qui connaît bien le langage des oiseaux, de certains mammifères, qui connaît bien le langage des plantes, et puis qui sait écouter le Vacarès. Alors, quand il parle, quel échange vous avez donc avec ce Vacarès ?
Alors, ça peut paraître surprenant de dire ça, mais j'ai l'impression d'être en communication régulière avec cet étang. Alors, déjà parce que j'en suis le responsable officiellement, donc c'est normal qu'on y pense un peu. Mais c'est vrai que je me sens, détenteur de son destin un peu, de faire en sorte qu'il continue à s'exprimer, à représenter quelque chose sur ce territoire. Et donc, alors, dire que je parle à l'étang, c'est peut-être un peu exagéré. Mais
en tout cas, lui, il vous parle.
Alors lui, il me parle, oui, il nous parle, il parle à tout le monde en fait. Hein. La question, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de l'écouter. Quand on dit, ben voilà, il y a tel problème, parfois ça dérange un peu, parce que quand on soulève un problème, on soulève aussi des dénis, des difficultés, des choses de notre monde, et voilà, donc on n'est pas tous capables de l'écouter, et nous, c'est notre travail. Hein. On est là pour l'écouter et pour veiller sur lui.
Regarde bien, petit, regarde bien. Sur la plaine, là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, il y a un homme qui vient, que je ne connais pas. Regarde bien, petit, regarde bien.
Alors j'imagine bien que quand on est camarguais, quand on est ici sur ce Vacarès, on a l'œil qui est très exercé, c'est-à-dire que vous avez une vision horizontale des choses. Le montagnard va l'avoir davantage vertical. Et donc vous êtes habitué à voir plein de petits fourmillements que moi je ne vais pas voir. Enfin...
Oui, parce que déjà la topographie en Camargue, elle se discute au centimètre et pas au mètre. Donc un dénivelé de quelques centimètres, ça a un impact sur la végétation. Donc là devant vous, les ceintures de végétation que vous avez, elles sont en fonction de deux paramètres, donc de l'eau effectivement, mais aussi de la hauteur. Donc le fait de fonctionner comme ça, ça vous oblige à regarder en horizontalité, mais quand même de voir le relief. Alors c'est pas un relief de montagnard, mais c'est un relief qui est très important, puisque d'un centimètre à un autre, on peut avoir un changement très important de fonctionnement, de salinité, de végétation.
Comment on peut se projeter ? C'est-à-dire qu'on a une vision toujours qui est fixiste des choses, mais ça peut évoluer relativement vite.
Comment ça va évoluer ? Ça va changer. Ouais. C'est la vie, c'est le monde. Et d'autant plus aujourd'hui où les choses s'accélèrent. Donc le Vacarès, il a 4000 ans. Peut-être qu'il aura vécu que 5000 ans, mais pendant 4500 ans, il aurait eu du sens, ça aurait été l'histoire des hommes. C'est pas très grave. Enfin, pour moi, c'est pas très grave. Le Delta, c'est de toute façon un territoire qui est précaire. On est gagné sur la mer dans des conditions exceptionnelles. C'est un éclair comme ça dans l'humanité, en fait. Hein. Donc ça me dérange pas, psychologiquement ni philosophiquement, qu'il puisse disparaître. Ouais. Par contre, quand on vit ici, ce qui est mon cas, il y a une autre branche qui parle, qui est celle de dire, ben oui, mais est-ce qu'effectivement mes enfants pourront voir ça, mes petits-enfants peut-être ils ne le verront pas, et ça secoue. Vous voyez, il y a les deux à l'intérieur d'un même individu.
Cette nuit, j'ai rêvé de la Camargue. C'était le Vacarès, l'étang de la Camargue.
Pourquoi c'est qu'il a un bandage à la jambe, Ulysse ?
Il s'est cassé la jambe dans le temps, et ça y a fait rhumatisme.
Eh oui, comme moi.
Et de la même patte ?
C'est la vie.
Antonin, je voudrais trop rien dire, mais si tu fais la conversation à mon père, tu vas y faire manquer la matinée pour un cheval, hein.
Pour un cheval. Il te dérange, mon cheval ? Nous sommes faits de la même matière. Nous avons les mêmes maladies. Tiens, le rhumatisme. On fait partie de l'âme du monde.
C'est toi qui crie comme ça, Antonin ? Rien qu'à voir ton air ce matin, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Tu avais l'air d'un qui a fait de mauvais rêves.
Mais non, il a rêvé la canne.
Alors c'est autre lieu là maintenant de Camargue, parce qu'on n'est pas très loin de chez vous Jean Jalbert, donc de cette tour du Valat. Bonjour à vous Jean.
Bonjour Denis.
Alors Jean, donc parlons de cette Camargue peut-être un petit peu différemment. C'est vrai qu'on a cette digue là qui n'est pas très loin. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Parce qu'on a un peu l'impression que les choses sont figées ici.
C'est ça qui est paradoxal, c'est que les choses paraissent figées alors qu'on est dans un delta. Et un delta par essence c'est le lieu de l'impermanence, le lieu des flux, de la mobilité. Et c'est justement cette digue, pour moi c'est quelque chose de très fort, de très symbolique et qui aujourd'hui fige mais aussi cristallise les positions des acteurs. Parce que justement, dans ce delta, les hommes de tout temps, comme dans tous les deltas du monde, ont été toujours attirés. C'était une double force d'attraction et de répulsion. Attraction par ces ressources poissons, gibiers, végétaux, matériaux extraordinaires. C'est les écosystèmes les plus productifs de la planète. Et dans le même temps, une force de répulsion, parce que s'installer de façon stable dans un delta, c'est être assez joueur. Hein. Ouais. En général, ça ne marche pas longtemps. Et donc voilà, d'où ce rêve d'endiguer le delta pour continuer à exploiter la manne et en s'affranchissant des contraintes. Et c'est là où, fin 19e siècle, à la faveur d'une immense inondation, qui a d'ailleurs mis en charge à la fois la Loire, l'Allier, le Rhône, tous les fleuves étaient débordés et toute la Camargue a été inondée. Et donc Napoléon III, pour la première fois de l'histoire, fait une approche médiatique d'une catastrophe naturelle. Ouais. Il descend avec photographe et peintre pour, comme ça, immortaliser la compassion impériale au chevet de la Camargue et promettre d'endiguer la Camargue. Voilà, 13 ans après, la Camargue est endiguée et depuis, un nouveau récit de la Camargue s'est écrit à partir de là et c'est toujours le récit qui vaut aujourd'hui, le récit de la conquête et de la maîtrise.
Mais est-ce que justement on n'a pas endigué aussi un peu les esprits avec, hein ?
C'est ça le problème, voilà, à mon avis, c'est qu'on a beaucoup endigué, on a en fait invisibilisé le Rhône et donc on a sorti de la mémoire, une mémoire humaine, on sait bien que la mémoire est assez labile, hein, déjà dans une génération, si les événements ne se reproduisent pas tous les 10 ans. Voilà, mais là, ça fait 5 générations que ce Rhône et cette mer sont derrière des digues. La grande majorité des Camarguais considèrent qu'on est dans un milieu stable pour toujours. C'est un peu comme la Beauce en Camargue, quoi.
Là, on voit bien que là, il y a de la force, hein, on y va, que ce soit d'ailleurs aussi les riziculteurs d'un côté, les producteurs de sel de l'autre, qui ne s'entendaient pas plus que ça, il faut bien le dire, et, mais qui aujourd'hui ont une espèce de coalition, qui voilà, ont renforcé la digue, on veut que cette digue donc, résiste à tout.
Et oui, c'est ça, parce qu'on voit que après 5 générations de persuasion, une fois, je pense que tout le monde est persuadé que c'était stable pour toujours. Là, on voit, depuis 5 ans notamment, on a eu 5 années consécutives de très grandes sécheresses où le sel est remonté de partout, la mer monte, on a du mal à faire rentrer l'eau, enfin, ça devient compliqué. Et la réaction à cette complexité, ça a été plutôt que de dire « oui, il faut qu'on repense un peu notre logiciel », au contraire, de fédérer les acteurs économiques, pour faire simple, hein, c'est un peu rudimentaire ce que je raconte, mais c'est à peu près ça, pour dire « la Camargue a été faite par les hommes, elle doit être maîtrisée par les hommes. Les hommes ont la capacité à maîtriser, c'est juste une question de moyens et de volonté politique. Donc faisons pression pour qu'on investisse, pour maintenir la Camargue endiguée et qu'elle tiendra. Voilà, on a la technique.
On a donc les digues là qui sont, cette grande digue qui n'est pas loin, on a la mer qui est beaucoup plus loin, et pourtant la mer va faire son boulot, elle se dilate, elle avance tranquillement, elle rentre un peu comme ça doucement dans les pieds de la Camargue avant d'aller lui lécher le ventre.
Eh bien oui, et c'est ça qu'on a d'abord voulu ignorer, maintenant je pense que tout le monde en a pris conscience et plus personne en Camargue ne peut le nier, mais il y a encore cette croyance qu'on continue à faire la lutte gréco-romaine, hein, c'est-à-dire des forces brutes l'une contre l'autre, et nous on a la conviction qu'il faut changer de sport et passer au judo, c'est-à-dire plutôt utiliser l'énergie de la mer à ses propres fins, sans lutter contre, enfin il faut lutter un peu, mais diriger en tout cas la force de l'adversaire et l'utiliser à ses propres fins. Et ça, moi j'ai la conviction que, encore une fois, il ne faut pas nier ce récit fondateur, hein, parce que c'est quelque chose de très fort, mais ajouter une autre part du récit, qui est justement comment est-ce qu'on laisse aussi une place à la mer, comment est-ce qu'on laisse une place au Rhône, ces deux géniteurs de la Camargue qu'on a complètement occultés.
Jean-Jalbert, qu'est-ce qui vous touche quand même dans ce paysage, dans cette vie que nous avons, qui est quand même très particulière, mélangée donc aussi à une culture qui est extrêmement forte, et que vous connaissez depuis une trentaine d'années ?
Ah, moi, je m'en lasse pas. Je suis transporté à chaque fois que je passe et que je vois voilà, le long du Vaccarès. J'y passe tous les jours, deux fois par jour. Et c'est à chaque fois, je m'arrête régulièrement pour admirer, entendre, m'immerger dans tout ça. C'est vraiment une source de ressourcement. Et au-delà de cet aspect, c'est pas simplement la beauté de ou la passion pour les oiseaux ou pour les plantes, c'est vraiment cette imbrication de l'homme et de la nature. Et c'est ça qui en fait la valeur. On a à la fois un delta qui, dans l'imaginaire collectif, est extrêmement sauvage et qui, en fait, est extrêmement géré, mais avec des processus environnementaux, des processus naturels qui sont encore extrêmement puissants. Et c'est ça qui est magnifique, c'est de voir qu'on peut à la fois avoir des activités identitaires, l'élevage des taureaux, le sel, etc., du tourisme, et en même temps, dans une nature qui fonctionne. Voilà. Et donc, pour moi, c'est ça l'enjeu, d'arriver à maintenir ça tout en acceptant que tout ça change. Donc, surtout ne pas faire comme Tancrède et le Guépard, ne changer pour que rien ne change, mais vraiment accepter que le changement est là et que ce changement peut être une opportunité pour repenser ce territoire sans renoncer à ce qu'on a fait. Et c'est là où moi je suis persuadé qu'il y a vraiment une histoire incroyable à écrire, pour peu qu'on ait la capacité, une forme d'intelligence collective qui aujourd'hui fait un tout petit peu défaut.
Que peut-on vous souhaiter, Gaël, ici, dans cette merveille, quoi ?
De continuer à vivre cette expérience, d'être aussi un recul par rapport à ce qui se passe, de savoir transmettre ça à d'autres, hein, de pas trop se l'approprier, c'est toujours un peu la difficulté, hein, dans le travail qu'on exerce, c'est que parfois on s'approprie les lieux comme si on en était presque propriétaire, ça c'est quelque chose auquel il faut veiller, et donc c'est de travailler un peu comme un passeur, hein, sachant que moi j'aurais accompagné une partie de l'histoire de la vie du Vaccarès, pour qu'un autre ou d'autres prennent la suite et le surveillent. Je dirais que tant qu'il y aura des hommes et des femmes soucieux de ça, d'une certaine façon, ça existera et ça sera intéressant pour l'humanité.
Voilà. Bah, à bientôt, Gaël Emery. Au revoir.
À bientôt, au revoir. Au revoir, Denis.
Merci Gaël Emery, donc de la Société Nationale de Protection de la Nature, et puis aussi donc Jean Jalbert de la Tour du Valat. Vous avez le site, hein, évidemment, sur le site de CO2 Mon Amour, de cette réserve naturelle de Camargue. La semaine prochaine, où va-t-on ? Eh, on va rencontrer une jeune femme qui ne veut pas laisser perdre la laine des brebis de sa vallée d'or à Vielle-Laure. Eh bien, nous allons être dans les Hautes-Pyrénées, elle va nous raconter cette histoire. Merci à Anne Lorcochet qui a mixé donc ce reportage, à Camille Blanès, à Xavier Pestugia qui a formidablement réalisé cette émission, Thierry Dupont a choisi les disques. On se retrouve sur Instagram, LinkedIn, Blue Sky, etc. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter quoi ? Eh bien, une bonne fin de dimanche !